Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les droits des femmes reculent encore en Afghanistan. Les talibans ordonnent aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. Bissou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits de l'homme et directrice exécutive de la Fondation Armand Char, sera l'une de nos invitées. Le roi Abdallah II de Jordanie est à Ramallah, en Cisjordanie occupée, un déplacement pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. L'entrée en vigueur ce lundi d'une nouvelle allocation chômage en Algérie, allocation destinée aux primo-demandeurs d'emploi. Deux candidats à l'exil sont morts noyés au large du Maroc, c'est arrivé après le naufrage de leur embarcation. L'agression de l'Ukraine par la Russie, un haut responsable ukrainien dit ne pas s'attendre à des avancées majeures lors des pourparlers de paix à venir en Turquie. Coup de projecteur sur l'édition de littérature jeunesse au Maroc. La fondatrice des éditions Yomad, Nadia Essalmi, propose de nombreux ouvrages en français à destination des enfants. Nous l'écouterons. Le début de la campagne officielle avant le premier tour de la présidentielle en France le 10 avril prochain. Les droits des femmes reculent encore en Afghanistan. Les talibans ont ordonné aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille pour voyager. Décision prise après une réunion en milieu de semaine dernière entre des représentants des talibans et des autorités de l'immigration de l'aéroport de Kaboul. Cette nouvelle restriction imposée aux Afghanes intervient quelques jours après la décision des talibans de fermer les écoles secondaires pour filles. Et ce dimanche, le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice a ordonné la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics à Kaboul. Sur ces reculs des droits des femmes, entretien avec Gissou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits de l'homme et directrice exécutive de la Fondation Armand Char.
Pour nous, connaisseurs de l'Afghanistan, l'ayant pratiqué et travaillé, malheureusement, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que le monde a bien voulu, en tout cas, certains grands pays du monde a bien voulu attacher de l'importance à un discours politicien des talibans qui cherchaient à tout prix l'acceptation par la communauté internationale de leur prise de pouvoir en ce qui concerne justement leur point faible essentiel qui constitue la colonne vertébrale de leur idéologie et de leur pratique, c'est-à-dire la ségrégation contre les femmes, la persécution des femmes. Donc si vous voulez, ça a commencé par des petites mesures qui n'ont pas peut-être attiré l'attention des médias et de l'opinion publique. Déjà, durant le processus qui les a menés jusqu'à Kaboul, c'est-à-dire la ségrégation dans l'espace public des femmes et des filles. L'école, l'université, la liberté de mouvement, de voyager, l'indépendance des femmes, l'accès au travail, etc. Donc ce que nous avons pu constater, alors que c'était la rentrée des classes, c'est que finalement, les talibans ne laissent pas les jeunes filles aller à l'école.
Et ces mesures vis-à-vis des femmes se multiplient. Les talibans qui ordonnent aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme, ou encore le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice, c'est son nom, qui ordonne la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics de Kaboul.
Entre autres, bien sûr, dans les parcs publics. On va voir. Je pense qu'on va vite arriver malheureusement à l'état dans lequel nous nous trouvions la dernière fois qu'ils avaient pris le pouvoir. On parlait même de l'apartheid sexuel, un stade où même les médecins hommes ne pouvaient pas voir une malade femme, même si elle était mourante, parce que les talibans ne le permettaient pas. Donc si vous voulez, malheureusement, ça ne nous surprend pas, ça nous choque, ça continue à nous choquer, et nous ne comprenons pas comment c'est acceptable d'avoir des interlocuteurs comme les talibans par des pays qui, en tout cas, les soutiennent, même si ce n'est pas ouvertement. Des pays de la région, les États-Unis et d'autres. Alors, la communauté internationale, les grands bailleurs de fonds, font face à un dilemme. C'est-à-dire, ils comprennent ce qui se passe, évidemment, ils le voient, ils encouragent et donnent de la visibilité aux petites manifestations ici et là des jeunes filles et des jeunes femmes courageuses qui remettent en question la perte des acquis, c'est-à-dire l'accès à l'école, l'accès à l'espace public qui a été quand même pratiqué depuis 15 ans dans l'ancien régime. Mais comment aider une population en détresse qui fait face à la famine? Comment acheminer de l'aide à l'Afghanistan et rendre acceptable cette ségrégation. Ça, c'est vraiment le dilemme, on va dire, des institutions onusiennes et autres. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est que la population est différente. C'est-à-dire que la population est beaucoup plus avertie. Les femmes et les jeunes filles considèrent que c'est absolument leur droit d'aller à l'école, par exemple. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment un drame humain inacceptable. Les femmes et les filles d'Afghanistan ont besoin d'une solidarité internationale qui va au-delà des actions possibles dans le cadre afghan où les gens vivent sous la peur dans la plupart des régions.
Parce que cette résistance que vous mentionnez de la part de femmes, elle doit être soutenue et mise en lumière davantage.
Oui, mais c'est pas simplement une solidarité dans la parole. Il faudrait que les interlocuteurs des talibans mettent des lignes rouges, gagent l'aide en échange de l'égalité des femmes. Je ne sais pas si nous allons réussir, mais à part ce moyen-là, je ne vois pas comment on va infliger ce changement aux talibans qui considèrent absolument d'être en cohérence avec leur idéologie et leurs pratiques. Les talibans se définissent par cette ségrégation. Il n'y a pas de talibans modérés ou de néo-talibans ou de talibans. Les talibans définissent la structuration de la société basée sur cette ségrégation entre les deux sexes.
Et vous soulignez que les jeunes femmes n'ont pas connu cette ségrégation.
N'ont pas connu, étaient complètement parties pour avoir une vie grosso modo, on va dire, égale. À leurs copains d'école, oui, ça choque profondément. Je vous rappelle, monsieur, que tous les ans, jusqu'à récemment, des centaines de milliers de jeunes personnes participaient au concours universitaire. C'est-à-dire que la société afghane a envie que ses enfants, comme partout, filles et garçons, aillent à l'université. C'est normal. Et donc, de dire même, on a quelques spécialistes français qui regardent l'Afghanistan, qui nous disent malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, les Afghans, c'est ça qu'ils veulent. Alors que c'est vraiment un mensonge, c'est-à-dire que la population afghane, sa jeunesse, les filles, les femmes, les hommes, aimeraient bien avoir une vie normale qui inclut l'accès à l'école et à l'université aussi pour leurs filles. Donc il faut aller au-delà des mots pour cette solidarité-là. Il faudrait que ceux, les décideurs du monde, les institutions onusiennes, clarifient clairement leurs lignes rouges et ce qui est inacceptable en Afghanistan pour la moitié de la population.
Malgré cette tragédie en Ukraine, le sort des femmes afghanes ne doit pas être passé sous silence, c'est aussi ce que vous dites.
Absolument, vous savez, la question des libertés universelles. S'il y a des empiétements, s'il y a des crimes graves qui se passent ailleurs, ce sont nos droits à nous, ailleurs, dans d'autres pays qui est remis en question. Donc le monde a regardé avec énormément d'attention ce qui est arrivé la première fois quand les femmes ont été exclues entièrement de l'espace public en Afghanistan. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le même niveau d'attention. Malheureusement, il y a évidemment le drame aussi en Ukraine. C'est pas l'un ou l'autre, il faut regarder les deux avec énormément de vigilance et agir.
Guissou Jehangiri, vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains et directrice exécutive de la Fondation Armand Char. Le roi Abdallah II de Jordanie est à Ramallah en Cisjordanie occupée, un déplacement pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Ce déplacement du roi jordanien à Ramallah, le premier depuis 2017, fait suite à une rencontre ce dimanche entre Mahmoud Abbas et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Des responsables palestiniens ont à de nombreuses reprises averti ces derniers jour que la situation en Cisjordanie occupée était sur le point d'exploser. Environ 475 000 Israéliens y résident dans des colonies jugées illégales par le droit international. 5 suspects ont été arrêtés en Israël après une attaque revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. Une attaque dans le nord du pays qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Les personnes tuées étaient membres de la police aux frontières israéliennes. Une attaque fermement condamnée par la France. 2 candidats à l'exil sont morts noyés au large du Maroc. C'est arrivé après le naufrage de leur embarcation. Par ailleurs, 200 autres personnes ont été interpellées dans le sud du royaume alors qu'elles s'apprêtaient à embarquer pour l'archipel espagnol des Canaries. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 40 000 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, sont arrivés en 2021 par la mer dans le pays, ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries. La nouvelle allocation chômage est versée depuis ce lundi en Algérie, une allocation de 13 000 dinars par mois. Plus de 500 000 primo-demandeurs d'emploi sont concernés. Prévu dans la loi de finances 2022, ce nouveau dispositif a été mis en œuvre le 25 février dernier et il est destiné aux personnes qui n'ont jamais travaillé et qui sont âgées de 19 à 40 ans. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, appelle le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, à exempter le Liban de la décision algérienne d'arrêter l'exportation de sucre. Un appel alors que la sécurité alimentaire du Liban est menacée suite à l'invasion russe de l'Ukraine. L'agression de l'Ukraine par la Russie, un haut responsable ukrainien dit ne pas s'attendre à des avancées majeures lors de pourparlers de paix prévus ce mardi en Turquie. Je ne pense pas qu'il y aura une quelconque avancée sur les principaux sujets, selon un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien. Le Kremlin a dénoncé ce lundi les commentaires qualifiés d'alarmants du président américain Joe Biden, qui a traité son homologue russe Vladimir Poutine de boucher. Le porte-parole du Kremlin souligne que Moscou continuera de suivre de manière très attentive les propos du président américain. Coup de projecteur sur l'édition de littérature jeunesse au Maroc avec la fondatrice des éditions Yomad, Nadia Essalmi. À son catalogue, de nombreux ouvrages français à destination des enfants. L'éditrice, qui consacre sa vie à la promotion de la lecture à travers ses activités associatives et l'organisation d'un festival itinérant, Nadia Essalmi.
C'est en 1998, alors que j'étais au Salon de Paris pour représenter une revue que je gérais à l'époque. Et donc on avait un stand commun et quelques éditeurs marocains. Et donc on avait des visiteurs qui venaient, des lecteurs, etc. Et ils demandaient des livres pour enfants. On n'en avait pas un seul sur le stand. Et là le déclic s'est fait et voilà, l'idée a germé comme ça. Et puis j'ai créé la première maison d'édition spécialisée dans les livres pour enfants au Maroc. Voilà comment ça s'est passé.
Et vous avez demandé à de grands auteurs d'écrire pour la jeunesse, c'était une première pour eux.
Oui, absolument. Donc, Drish Traibi a signé mes trois premiers livres. Je l'avais rencontré, j'avais fait mon travail universitaire sur son œuvre. Et donc, je lui ai dit que j'allais créer une maison d'édition pour enfants. Il m'a dit, je serai ton premier auteur. Franchement, c'était pour moi inespéré. De jeunes éditrices qui commencent, qui connaît pas très bien encore les auteurs, les stars, on va dire, hein, parce que Drish Traibi, c'était pas n'importe qui. Et donc, commencer mon catalogue avec un nom pareil, ça m'a permis d'avoir un raccourci énorme et la maison s'est vite fait connaître. Ensuite, j'ai demandé à Fouad Laroui qui me disait « Ah non, moi je peux pas écrire pour les enfants, j'ai pas d'enfants d'abord, je sais pas m'adresser aux enfants. » Et ben, j'ai fini par le convaincre et finalement on a fait deux livres aussi ensemble. Et puis a suivi Aplatef Labi, Jocelyne Labi, Zakia Daoud et bien d'autres. Voilà.
Ces livres ont été lus par plusieurs générations d'enfants.
Absolument, oui, tout à fait. Et puis, comme il y avait un manque énorme, ils ont eu leur place aussi dans le cursus scolaire. Beaucoup d'écoles les ont pris en activité parascolaire. Donc, je suis très contente. Mais en plus de ça, je fais beaucoup d'activités autour du livre pour donner justement le goût de la lecture et éduquer les enfants à la lecture et pourquoi pas les parents aussi.
Vous avez notamment une activité auprès des jeunes défavorisés au Maroc pour les sensibiliser à la lecture?
Oui, tout à fait, parce que voilà, l'activité s'appelle Lire pour grandir. L'activité consiste à faire des séances de lecture gratuites pour les enfants, c'est tous les dimanches matins, et ça a eu un succès énorme. Et j'ai fini par dupliquer l'événement dans 15 villes du Maroc. Alors, en fait, l'idée, c'est que tous les dimanches de 11h à 1h, beaucoup d'enfants lisent en même temps dans plusieurs villes. C'est une activité où je reçois les enfants avec leurs parents. Si vous voulez, le but, c'est d'installer une tradition de lecture dans les domiciles, dans les familles, parce que quand les enfants lisent avec leurs parents dans la séance que j'organise, eh ben, ils refont la même chose dans leur maison. Pas tous, en tout cas pour moi, si j'arrive à gagner un seul lecteur, c'est déjà du tout bénéf, comme on dit.
Vous avez le sentiment d'aider aussi à faire connaître la langue française au Maroc à travers vos livres?
Mais bien sûr, parce que la culture ou la littérature en particulier, elle crée des ponts. Vous savez, la francophonie, souvent le français il est parlé dans plusieurs pays du monde, et donc notamment en Maroc, où le français est la deuxième langue. Beaucoup de gens parlent le français ici. Et donc, moi, je publie plus en français qu'en arabe. Et je pense que cette langue, elle m'a permis, et a permis aussi aux lecteurs marocains de créer des ponts entre nos deux cultures, c'est-à-dire la culture française et la culture marocaine. Et c'est ça la richesse, c'est ces ponts qui mènent aussi au vivre ensemble, c'est ces ponts qui détruisent, si vous voulez, tous les préjugés, tout ce qu'on peut penser l'un de l'autre.
La fondatrice des éditions Yomad, Nadia Essalmi, elle répondait à Loïc Barrière. Le début de la campagne officielle avant le premier tour de la présidentielle, le 10 avril prochain en France, les 12 candidats doivent désormais bénéficier d'un temps de parole égal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Amine Saha, maire adjoint de la Courneuve, en charge de la tranquillité publique, vice-président de la Pleine Commune et candidat aux législatives en Seine-Saint-Denis. Émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.